This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'Histoire, une émission de Gérard Violc et Alain Vaquier, où quand le jazz retrouve ses repères. Nous voilà parvenus au terme de cette semaine, à l'ultime année de cette période terrible que fut 14-18. Elle signe l'affaiblissement de l'Europe et l'ascension des États-Unis au rang de première puissance mondiale. C'est d'ailleurs le président des États-Unis, Woodrow Wilson, qui, dès le 8 janvier 1918, prend l'initiative et annonce un programme de paix en 14 points, avec notamment la souveraineté de la Belgique, la libération de la France et la restitution de l'Alsace et de la Lorraine, le développement autonome des peuples de l'Autriche-Hongrie, ce qui signe la fin de l'Empire austro-hongrois, et la création d'une Société des Nations, l'ancêtre de notre ONU actuelle. Ce plan vise à transposer à l'échelle internationale la démocratie libérale telle qu'elle se pratique aux États-Unis et à instaurer l'expansion commerciale sur un ordre international librement consenti. L'Europe est à genoux, la France a connu les réquisitions, les cartes d'alimentation, les emprunts à répétition. La guerre a tué 1 450 000 soldats. La surmortalité civile est de 250 000 personnes environ. Les naissances se sont effondrées, elles sont inférieures à 1 400 000, au-dessous de la normale. Et le célèbre économiste Alfred Sauvy chiffre à 28 milliards de francs lourds, de francs or, l'étendue des destructions matérielles. De nombreuses grèves ont lieu à Paris et à Saint-Étienne notamment dans les usines d'armement. Le surendettement du pays est de 180% du PIB, le déficit est de 20,5% de ce même PIB. L'entrée en guerre des États-Unis aura été décisive. Les alliés regonflés reprendront l'offensive et de mars à juillet, la bataille. Le conflit reprend sur tout le front, d'un bout à l'autre, et la seconde bataille de la Marne sera décisive. Et le 11 novembre, l'armistice sera signé à Rotonde, en forêt de Compiègne, la même où Hitler, en 1940, fera signer la reddition de la France. Pour la petite histoire, c'est au cours de cette période que l'on crée les heures d'été et les heures d'hiver pour faire des économies d'éclairage. À Paris, eh bien, pendant ce temps, Eric Satie compose. Il compose Socrate et il joue les Gymnopédies.
Thank you.
Merveilleux Aldo Ciccolini dans l'interprétation de cette première gymnopédie. Alors il est à noter que malgré cette guerre terrible, la vie artistique n'est pas complètement anéantie et donc on l'a vu d'ailleurs tout au long de ces quatre années, de ces cinq années, diverses créations ont lieu. Et d'ailleurs pas qu'à Paris, puisque à Zurich, on lit dans le Café Voltaire le manifeste Dada, cher à Tristan Tzara, et le surréalisme commence à poindre, et à s'esquisser derrière ce premier mouvement. À Petrograd, en Russie, là où encore la guerre civile est active, puisque vient d'avoir lieu la révolution russe, Prokofiev crée sa première symphonie. À Lausanne également, Igor Stravinsky fait donner, comme un écho au conflit, l'histoire du soldat. Et c'est également, dans ces années, en 1918, c'est le premier concert du groupe des Six, qui est composé de Darius Milhaud, Germaine Taillefer, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Georges Auric et Claude Roland Manuel. Il faut signaler, lors de cette période, le rôle éminent qu'a joué un musicien, compositeur, Jean Wiener, qui fut l'un des premiers à écouter du jazz et à mêler les genres dans ses propres compositions. Il jouait jazz, il organisait des concerts jazz, notamment au Bœuf sur le Toit, après l'avoir fait au bar Gaïa, où il était piano-bar, comme on le disait à cette époque. On se souvient de la part de ce musicien, pour les plus anciens d'entre nous, du générique d'Histoire sans parole à la télévision. Yes, sir, that's my baby. Alors, pour certains, ce serait un Charleston. En réalité, il s'agit d'un foxtrot inspiré du ragtime, comme on peut l'entendre de manière évidente, joué à deux pianos par Jean Wiener et Clément Doucet, ces deux musiciens ayant enregistré pas mal d'interprétations de leurs compositions et de morceaux tirés du ragtime et certaines de Scott Joplin d'ailleurs. Il jouait dès ces années 1918. Ici, c'est un enregistrement qui a été fait quelques années plus tard, en 1927. Alors, on dit souvent que le corps expéditionnaire américain contribue à faire connaître le jazz dans toute l'Europe du Nord. Il reste tout de même que des musiciens blancs ou noirs avaient toutefois déjà traversé l'Atlantique et familiarisé le vieux continent à des rythmes insolites et des sonorités inattendues. Ainsi, les membres de l'orchestre qui animaient les soirées du Sea Rose Club à Londres, emmenés par le banjoïste Vance Lawry. Leur Saint Louis Blues est l'une des premières versions enregistrées pour le disque. Voilà, une version très préhistorique presque de Saint Louis Blues de V.C.W.C. Andy qui avait été écrit en 1914. Jean Cocteau se plaisait à dire qu'il avait emmené en France le premier jazz, entendez, le premier orchestre de jazz, et notamment le Billy Arnold Band, pour le présenter sur une scène de concert. Sans doute faisait-il allusion au concert organisé par Jean Wiener et donné à Paris le 6 décembre 1921, donc 3 ans plus tard de l'année qui nous intéresse, où le groupe américain partageait l'affiche avec Igor Stravinsky et Darius Milhaud. C'est étonnant car aujourd'hui, je doute que l'on puisse assister à une telle affiche qui mélangerait les musiciens classiques et les musiciens de jazz. Dans la mouvance du Original Dixieland Jazz Band, entendu en Angleterre quelques années plus tôt, la formation de ce pianiste américain, Bill Arnold, donc, qui est né et mort en 1954 d'ailleurs, allait pendant quelques années entretenir en Europe la vogue naissante du jazz puisqu'il s'y était installé. Bill Arnold's Novelty Jazz Band, qui a interprété Left Alone Again Blues, un enregistrement fait pour la marque Columbia. Alors, c'était un sextet avec une présence bien affirmée du banjo. Le banjo, c'est un instrument qui disparaîtra peu à peu des formations et la formule, disons, la plus classique, finira par être celle du quintet à l'image de beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations qui verront le jour par la suite. Disons que certains, alors il est à noter que certains instruments, effectivement, autres que le banjo, vont disparaître, le washboard, enfin toutes sortes d'instruments à percussion, mais aussi un instrument comme le cornet, qui était l'instrument roi au début de cette musique, finira par céder la place à la trompette à trois pistons que nous connaissons aujourd'hui. Alors précisément, la question s'est longtemps posée de savoir quel était l'instrument roi, l'instrument moteur de cette musique. Alors pour certains, évidemment, c'est la trompette. Alors pourquoi ? Parce que Louis Armstrong, parce que Dizzy Gillespie, parce que Miles Davis. Pour d'autres, c'est le piano. Pourquoi ? Parce que Fats Waller, parce que Duke Ellington, parce que Bill Evans est un autre, ou Thelonious Monk. En réalité, je vous propose d'imaginer que l'instrument le plus significatif du jazz, eh bien, c'est la batterie. C'est l'instrument qui a certainement le plus évolué et qui a amené le plus d'innovations dans cette musique. Alors, c'est un instrument qui incarne de manière visuelle et auditive son caractère, le caractère métissé ou mélangé du jazz. Alors, on va décomposer, si vous voulez bien, l'instrument. Alors, d'abord, la batterie. Eh bien, la batterie, c'est la caisse claire, je veux dire. La caisse claire, c'est donc l'instrument militaire, c'est l'instrument de la marche militaire, c'est donc l'instrument européen par excellence, avec ou sans sourdine, d'ailleurs. Ensuite, là, on a la grosse caisse et la cymbale qui était sur la grosse caisse. Là, c'est l'instrument type des fanfares. La marche des fanfares, c'est l'instrument de la Nouvelle-Orléans pour une large part. Et donc, c'est celui qui peu à peu, l'instrument de marche va s'installer et être joué au pied, alors qu'il était auparavant joué avec la main. Ensuite, nous avons les tambours, ou les toms, plus précisément tel qu'on appelle l'instrument. Et là, c'est toutes les sonorités africaines et même amérindiennes. Il ne faut jamais oublier qu'il y avait des traditions de tambours autres que des traditions africaines. Et donc, des traditions amérindiennes ont joué probablement un rôle, notamment à la Nouvelle-Orléans, où les Amérindiens, il y avait une communauté amérindienne importante. Ensuite, les cuivres. Eh bien, les cuivres, on a d'un côté le Charleston. Eh bien, le Charleston, c'est enfin, ce qu'on appelle le Charleston, qui sont en fait deux cymbales qui s'entrechoquent et que l'on fait ça au pied, on le faisait en tapant sur la cymbale qui était située sur la grosse caisse. Et les autres cuivres, eh bien, ce sont les cymbales en tout genre. Et ça, c'est probablement l'instrument le plus ancien. Pourquoi le plus ancien ? Parce que c'est celui qui nous vient de l'Asie. Ce sont les gongs, ce sont tous ces instruments qu'utilisent notamment au plus loin que l'on puisse imaginer des orchestres musicaux, la musique que l'on joue à Bali, où là on a des orchestres gamelans qui ne jouent que soit sur des instruments de bois, soit sur des instruments de cuivre, et donc sur des gongs de différentes tailles, de différentes sonorités, avec différentes tonalités. Ce sont ces cuivres qui se sont fortement développés tout au cours de l'histoire du jazz et qui ont donc amené des variétés, des sonorités extrêmement subtiles, au point que l'on assiste aujourd'hui à des batteries qui sont composées d'un nombre absolument extraordinaire de cymbales. Je ne suis pas sûr que tous les musiciens s'en servent réellement, mais c'est une autre histoire. Donc au fond, la batterie, c'est cet instrument qui incarne le jazz, qui lui donne son apparence la plus précise et qui en même temps en est quand même l'essence, puisque c'est lui qui marque la syncope, ce qui est quand même l'une des caractéristiques avec l'improvisation de cette musique. L'homme bon est difficile à trouver. Good man is hard to find. Tel est le titre de ce morceau enregistré en décembre 1918 par le Louisiana Five. Alors, c'est le deuxième quintet de jazz avec l'Original Dixieland Jazz Band à enregistrer des disques. C'est donc le petit second derrière l'Audi et JB. Ce groupe fut fondé à New York par le batteur Anton Lada, donc fondé par un batteur, ce qui n'est pas tout à fait un hasard, qui donc recruta le pianiste John Cowley, le trombone Charlie Panoli, d'origine italienne, le banjo Carl Berger, qui fut rejoint par le clarinettiste Alcide Yellow Nunez. Il faut, maintenant, il faut le faire. Alors, tous ces musiciens, c'est le début évidemment de l'exode de tous ces musiciens qui vont aller jouer dans tous les États-Unis, mais aussi en Europe. Il faut savoir qu'en 1918, King Oliver quitte la Nouvelle-Orléans pour Chicago. Il n'a pas encore enregistré, mais ça ne saurait tarder. Louis Armstrong fait son apparition et le remplace dans l'orchestre de Kidori, puis est engagé chez Fate Marable sur les riverboats du Mississippi avec Baby Dobbs et Pop Foster. À la suite de la guerre, lorsqu'elle fut terminée, beaucoup de musiciens américains sont envoyés en France comme soldats, puisqu'il y a des forces d'occupation. Il est à noter que Cole Porter, fameux compositeur, vient à Paris et s'engage dans la Légion étrangère jusqu'en 1919. Les deux orchestres noirs les plus célèbres sont le 350e Field Artillery Band et le 369e Infantry Band, le premier dirigé par le lieutenant Tim Brim, qui décrit son orchestre comme une symphonie militaire engagée dans la bataille du jazz. Cette formation de 70 musiciens sera surnommée les Black Devils. Russell Smith en fait partie, ainsi que le pianiste Willie the Lion Smith, dont on entendra parler, mais qui, à ce moment-là, jouait de la grosse caisse. Le second, nommé The Hellfighters, est conduit par le lieutenant James Rees Europe, dont j'ai déjà pu diffuser un extrait, avec un nom prédestiné. Cet orchestre, qui comptait dans ses rangs Herb Fleming, fit une tournée de 6 semaines en France, jouant dans 25 villes avec un immense succès, notamment à Paris, en août, au Théâtre des Champs-Élysées. Voilà, on s'aperçoit que cette année 1918 est une année décisive, puisque la guerre est finie, les échanges vont se multiplier entre l'ancien et le vieux continent, et le jazz va étendre son emprise sur tout le monde. Ainsi s'achève l'évocation de cette préhistoire du jazz entre 1914 et 1918. La semaine prochaine, une seule année nous préoccupera, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.